Place à la récré de France Culture. Bonjour, Françoise Tressard et la belle équipe. Montez dans le TER avec nous, écoutez-le se plaindre de sa vie de disparu littéraire. Jouez avec Shin Shin, l'impressif japonais, dont on retrouve la trace même chez le petit Nicolas. Odile conseille.
Et papa a dit à maman, tu te rends compte, 10 ans déjà. Et maman a dit en souriant, oui, 10 ans déjà, comme ça passe vite. Et papa a continué, tu te rappelles notre Shin Shin? Et je demandais ce que c'était un Shin Shin.
Rencontrez la tablette et la bibine façon Minet et Vallée. Découvrez l'exercice d'admiration de Patrick Beignet. Partagez l'inventaire des premières fois avec entre autres Jean-Bernard Pouy.
La seule fois où mon père m'a filé une claque en hurlant que j'étais aussi crétin qu'un jeune chien, ça m'a marqué. parce que je venais de faire sauter les plombs du compteur en essayant d'enfoncer une ampoule à vis sur une douille à baïonnette.
Et pour finir, l'indispensable publi papoucité, un demi, sinon rien. Un numéro des papous dans la tête à podcaster pendant un an, à réécouter 1000 jours sur la page des papous et le support de votre choix. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ceux qui nous découvrent. Histoire de SMS, tous accros à ces petits messages qui disent tant en si peu de mots. Exercice d'assouplissement pour les doigts sur les claviers trop petits et bonheur de la communication. Comment a-t-on pu un jour vivre sans ? Vous êtes qui, Dominique Muller ?
Je suis une femme qui part retrouver son mari. Je suis dans un TER qui va vers le nord. Et cette histoire pourrait s'intituler « Petite étoile du Nord », par exemple.
N'est-ce pas ? Quel joli titre !
Oui.
Oui.
11h17. Elle est comment, cette ferme ? Loyer dérisoire, c'est bien, mais à ce point, c'est louche. Le bassin minier, c'est original. Et la mer, elle est loin combien ? Il y a un village pour les courses ? Ou m'offriras-tu un vélo ? 11h23. Si ça me plaît de me reposer le week-end, avec ta famille au complet, je me réjouis. Un peu moins d'apporter les courses en train, sauf si tu prends le lourd en voiture. Et les gros travaux, ils sont gros comment ? Rappelle-toi que je suis tombée de l'échelle quand tu m'as appris à crépir les murs. 12h02. Mais si, je réponds, la preuve. Je discutais travaux avec mon voisin. Il a une petite maison à la mer, sur la plage, tout en verre avec des baies. Je sais que tu peux pas tout faire, Albert. Ça fait 20 ans que tu me répètes que tu te tues au travail pendant que je me tourne les pouces. Arrête, on parlera dans la voiture. Elle est loin de la gare, cette ferme. D'accord, je me débrouille. Le chemin avant le terril, la mare, je vais trouver. Qu'est-ce qu'il y a de malvenu à causer à un inconnu ? J'en sais rien s'il est marié, quelle importance. Il est gentil, il m'écoute, ça suffit. Parfois, j'ai l'impression que tu te montes la tête pour des riens. Non, je te fais pas de scène, pas une en 20 ans. Il est divorcé, ça change quoi ? Personne ne me fourre de drôles d'idées dans le crâne. J'ai quand même le droit de demander des détails sur cette ferme. Sa mare, son terril, ses travaux. Il est loin combien, le terril ? C'est toi qui pinailles, Albert. 13h50. Eh ben oui, tu vois, j'oublie de bondir sur mon portable. Ça m'étonne autant que toi, remarque. 20 ans d'obéissance et un jour, crac, va savoir pourquoi. Il va falloir que ça change. Je viens de m'en rendre compte. Réfléchis à nous. Tu as une heure avant que j'arrive. 14h22. C'est ça. Reste comme tu es où tu es. Rencontrer cet homme m'a ouvert les yeux. Quand la vie est aussi grise qu'une vieille serpillière, il faut partir. Vu que je suis dans le train, je saisis l'occasion. Je descends à la prochaine. Je vais à la mer avec Martin, c'est son prénom. J'ai dit que je n'avais pas de maillot. Il a dit que je nagerais sans. C'est simple, tu vois, avec lui. Je te quitte, Albert. Annonce-le aux enfants. Ils sont grands. Ils comprendront. Adieu.
Droit de réponse pour personnage de fiction en colère. Pas heureux dans son rôle, gêné peut-être par son costume de héros, eh bien, il demande à son auteur des petits aménagements. Bref, comme dans la vraie vie, il crie son besoin de changement. Et c'est par la bouche de Jean-Bernard Pouy. Un rebelle nous parle. Qui est-ce Jean-Bernard?
C'est quelqu'un qui écrit à Monsieur Gorgsbruck.
Gorgsbruck?
Gorgsbruck, PRC. Devinette. Ne le prenez pas mal, cette lettre est aussi une preuve d'admiration, mais qui aime bien châtie bien. Vous m'avez volontairement supprimé de l'un de vos chefs-d'œuvre, La Disparition, et cette curieuse absence a attiré sur moi, par le biais, quelques honneurs imprévus. En effet, je me croyais évident, nécessaire, et je découvre à cette occasion que ce n'est pas essentiellement vrai, je peux ne pas exister.
Georges Bruce, c'est Perec.
Oui, c'est Perec. Ah, c'est le E qui écrit, alors. C'est la lettre E.
C'est Monsieur E.
Et
je ne suis pas totalement convaincu de votre démarche. Même si certains ont pu évoquer une première attaque chez vous, la maladie d'Alzheimer, et donc je me permets de me plaindre amèrement. Je ressens que votre travail est trop basé sur la frime, et que ce lipogramme frise le bling-bling, comme on dit de nos jours. En effet, me supprimer, moi, la voyelle la plus usitée dans la langue française, était une contrainte qui ne pouvait que forcer l'admiration. Alors que si vous aviez choisi d'éviter le Q, le Y ou le K, ça aurait permis au lecteur de deviner quelle lettre avait disparu, et donc ça aurait été un jeu supplémentaire. Me supprimer était réputé difficile, et pourtant vous avez pondu quasiment 350 pages. La preuve que ce n'était pas si ardu que cela, admettez-le. Et de s'en rendre compte, enlève encore une strate d'admiration et rend l'expérience presque banale. Et puis, je ne peux m'enlever de la tête que la suppression du E, de moi-même donc, a quelque chose d'un peu machiste. En effet, par exemple, on ne pourra plus écrire le mot « femme » et le mot « Ève ».
Il n'y a qu'à écrire « Nana ».
La quintessence féminine. Mais surtout, en me liquidant, on se prive du patrimoine, de l'histoire, de la justesse et de la beauté. Le célèbre Incipit de Proust. Longtemps, je me suis couché de bonne heure et parfait. En tout cas, bien supérieur à, par exemple, si on m'enlève, hop, hop, trop tôt, mais au dodo.
Ah, ça a du charme quand même. Hein.
C'est pas pareil. Même chose pour Flaubert, je ne vois pas qui aurait écrit à la place de cet établi gare à Faubourg de Carthage des incipits du genre jadis à Tunis. C'est nul. La liste serait longue. Pourquoi vouloir trouver d'autres mots que tête, cœur, sexe, vérité, liberté, livre? Votre roman, mon cher Gorgsbruck, est une performance, certes, mais ce n'est qu'une performance, quasi inutile, car il manque en effet de cœur, de vérité, et j'ai bien peur qu'il manque surtout de littérature. Je réalise que la perte de moi-même, Dieu, nous éloigne drastiquement de l'être, pour nous rapprocher de l'avoir. Ce qui ne peut que me désoler. Et puis, il y a quelque chose de plus important à mes yeux. Vous êtes, vous, Gorgsbruck, une étape incontournable de la recherche littéraire. La vie mode d'emploi en est, entre autres, un exemple. Or, je pense que la littérature est affaire d'équilibre. Cela vient de la possibilité d'utiliser tout ce qu'elle a sous la main. Et je pense donc que ce lipogramme est une atteinte flagrante à cet équilibre. Et même, pardonnez-moi, c'est une couillonnade. Pour prendre un mot qui comporte les cinq voyelles. Bien à vous, monsieur E.
Enfin, quand même, sans Gorgsbruck, personne ne parlerait autant de vous, cher lettre E.
Mais on parle tout le temps de moi.
Oui, mais surtout depuis Perec, quand même. Encore plus. Hein,
mais je n'ai pas attendu Perec pour qu'on parle de moi.
Non.
Hein, l'Odyssée, il y en a combien? Deux.
Oui, deux.
Deux. Oui, vous hésitiez avec trois. Hein.
Un. Bon.
Homère, il y en a deux.
Homère, il y en a deux. Enfin, bref.
Dominique Muller, vous êtes procureur. Oui.
D'accord.
Je suis l'auteur. Voilà, je suis Georges Perec, quoi. Dites-le tout simplement. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous lui répondez à la petite lettre, là?
Bien sûr.
Oui.
Mon faux ami. Ton mot m'abasourdit. Crois-tu, compagnon, qu'assis sur un sofa, l'inspiration apparaît avec toi tombant du plafond? Faudrait-il, pour assouvir ta soif d'avoir un nom connu, alourdir d'un gravat, d'un plâtras imparfait, la rumba, la nouba, la java, qui saisit quand la fiction jaillit sous mon stylo? Toi, ou ton charabia, ton blablabla. Tu n'as jamais fait part du choix, du tri qu'assuma ma passion, parmi mots, noms, sons qui ont anobli mon travail. Dur travail, mais ni plaintif, ni contrariant, si plaisant. Sans lui, moi, Jojo, n'aurais qu'à courir au bar pour la boisson. 3 gins, 6 rhums, 8 bullshots, groggy jusqu'à la mort, afin d'abolir mon magma. Pour voir grand, il faudrait non pas m'assaillir, traçant ouin ouin sur sniff sniff, sur ton brouillon, ton gribouillis postal. Non, il faudrait accomplir un haut fait dont moi, surpris, admiratif, saisirais l'utilisation pour un roman, un lait, ou quoi qu'il plût à mon fatum. Oui, la loi qui guida ma main d'alpha à la fin dans mon scintillant pouvoir d'imagination. C'est une sorte de profession de foi.
Oui, on dirait, oui. Et on a l'impression, Dominique, que vous pourriez écrire un lipogramme en E sur des centaines de pages.
Je vais continuer. Toi, tu vois bas, content, notant ici ou là un A, I, O, U. Mais pas toi, non, trop bavard, trop tocard. Tu vis bas, tant pis pour toi. Va donc, lis l'almanach où ton parfum ravit tout un chacun. Salut, ou plutôt non, nihil, basta cosi, Jojo.
Oh. Au début, il y a super, avec.
Oui, avec.
Ah zut, tant pis, on va le laisser.
En 20 minutes.
Écrit en 20 minutes quand même et en studio. Ah, ouais. Très joli les programmes, non, Jean-Bernard?
Extraordinaire.
Oui.
Dominique Muller.
Lucas Fournier, vous avez un point de vue sur cet échange entre Georges Perec et la lettre E?
Oui, oui, parce qu'évidemment, ce petit débat n'est pas resté sans écho.
Ah.
Je suis Roger Colombet.
Oui, enchanté.
Je suis le président de la commission spéciale chargée d'évaluer le rapport de la commission sur l'évolution de l'appréhension linguistique des élèves du second cycle de l'éducation nationale.
Ah oui,
vous voyez qu'on ne redoute pas le génitif chez nous.
Non.
Oui, donc on est dans une hurlante actualité, là.
Oui.
Donc j'écris à mes collègues. Chers collègues, l'attention de la commission vient d'être appelée sur la proposition de réforme de l'appréhension orthographique des phonèmes, dite réforme Perec, de nature à solutionner les difficultés scolaires des ensembles de classes comprises entre le 4e décile du 20e siècle et la fin du 2e décile du 21e siècle. L'éradication du E dans l'orthographe constitue un moyen approprié de nature à rehausser le niveau général, y compris dans le classement international PISA en orthographe. Selon une étude d'impact conduite par notre commission, en l'absence de E, les fautes d'accord de participes passés seraient divisées par deux.
Évidemment, bien sûr, oui.
Il faudrait sans doute proposer aussi la suppression du S pour parvenir à un taux d'amélioration de 100%. Par ailleurs, les confusions entre participes passés en E et l'infinitif en « er »
oui,
dans la phrase « Omar m'a tué » serait totalement évité. Enfin et surtout, la notion discriminante de masculin et de féminin verrait sensiblement altérée. Les préconisations de M. Perec démontrent, si besoin en était, que les difficultés de la langue française, langue conçue par des hommes et des femmes d'un autre siècle pour leur époque et donc obsolète, proviennent du nombre trop élevé de lettres.
Oui.
Dès lors, le passage de 26 à 20 lettres nous paraît être l'axe réformateur prioritaire.
Ouais.
Outre la suppression du E, nous proposons de supprimer la lettre F, trop souvent confondue avec le PH. F.
Ah mais c'est mon prénom, c'est la lettre de mon prénom, ça.
Bah, Rançoise, c'est très joli.
Rançoise, oui, Rançoise, voilà.
Ou PH.
Le S qui rend compte d'une réalité trop plurielle, incompatible avec nos principes d'égalité républicaine.
Oui.
Ça, vous en serez d'accord.
On arrive à Ronroi.
Alors, le Y, bien entendu, suite aux récentes décisions du FMI concernant ce pays.
Alors,
et la même loi, Almas.
Le H, dont le rôle muet ne saurait s'adapter à une société communicante et connectée. Et enfin, le W, car en ces périodes de restriction, un simple V doit suffire.
Pauvre Perec, vous lui enlevez son W.
Donc
aussi.
Je transmettrai à M. Perec nos remerciements pour son importante contribution à nos travaux pédagogiques.
C'est très intéressant.
Ouais.
Hein. Est-ce que ça va relever le niveau?
Ah, c'est sûr.
Légaliser, bah,
oui,
probablement.
Ah, oui, on va limiter le nombre de fautes.
Mais combien de membres y a-t-il dans cette commission?
167.
J'avoue, je n'ai bavé pas vu mon amour. Avant de voir où vendez-vous mon amour.
Javanaise, version Iggy Pop.
Les pas poussés dans la tête sur France Culture.
Absolument, Violaine. Vive les impressifs. Grâce à Véronique Brindeau, notre papou traductrice de romans japonais, qui enseigne également l'histoire de la musique ancienne japonaise aux langues zo, grâce à Véronique, les impressifs japonais ont fait leur entrée dans nos vies de papou. Impressif, c'est le nom donné aux onomatopées japonaises en général, deux syllabes répétées comme giko giko, kuta kuta, ozu ozu. Ces impressifs concilient toutes sortes d'impressions très précises, de sensations, de bruits. Ils sont très courts, mais disent beaucoup. La recherche de Proust, par exemple, traduite en japonais, est un livre bien moins épais que notre version française. Et des impressifs, il en existe des milliers et nous, on joue avec certains d'entre eux, on joue à leur donner une signification, on joue à pasticher des grands auteurs autres que japonais qui auraient, dans leurs œuvres, utilisé ces impressifs. Et oui, les mots et les expressions voyagent. Avec Odile Conseil, Lucas Fournier, Jeanne Carillon et Véronique Brindeau, on s'intéresse aujourd'hui à Shin Shin. Se prononce comme le chi de Chine. C'est bien ça, Véronique, et non pas comme Chin Chin.
Non, ça, il vaut mieux éviter.
Oui. Ouais, ouais, ouais. Ce serait grossier, ça donnerait un autre sens.
Ce serait ambigu.
Ah. Ah. Ça, c'est pas ah. Bien.
C'est déconseillé à l'apéritif avec des japonais.
Évitons l'ambiguïté. Odile Conseil, c'est la première fois que vous jouez avec les impressifs. Vous êtes contente, non?
Je suis contente et terriblement émue à la fois.
Oui.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que vous avez pu donner comme sens à ce Shin-Shin?
Eh bien, Shin-Shin, c'est une promenade romantique et vespérale sur une plage déserte au cours de laquelle deux personnes souvent jeunes et terriblement émues, comme je suis présentement, se jurent un amour éternel.
Ah! Et s'embrassent, ils font du bruit ou il n'y a pas de bruit?
La définition est celle-là. Après, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, Françoise.
On est proche, Véronique Brindeau, cette promenade sentimentale.
Le caractère intime est tout à fait lié à Shin Shin, oui.
Oui.
Et puis le caractère vespéral, si on le pousse un peu plus vers la nuit, ça pourrait être...
Nuit de Shin Shin.
Nuit d'amour. Et pour vous, Lucas, vous êtes proche de Dil ou très loin?
On est dans l'intime, oui, mais dans un autre registre. C'est intéressant, vous qui aimez le tennis, vous savez que les joueurs de tennis ont droit à 2 balles,
oui,
pour servir.
Oui.
Et peu de gens savent que cette règle est un héritage du Japon, assez terrible. Mais regardez bien le geste du serveur, il n'est pas sans violence. Dans le Japon des origines, les bourreaux avaient droit, pour procéder à décapitation, à 2 essais.
Oh
et
non.
Si, alors les plus doués réussissaient du premier coup, pour d'autres il fallait recommencer. Et en cas de double faute, ils étaient purement et simplement éliminés et un autre prenait leur place. Uh-huh. Donc le shin-shin évoque évidemment le frisson de la lame qui cingle et qui tranche. Donc le shin-shin désigne une deuxième et ultime tentative après un premier échec pour obtenir ce que l'on désire, tout en sachant que si la réussite n'est pas au rendez-vous, la fin sera terrible.
Mais ça peut être aussi bien, voilà, on demande quelqu'un en mariage pour la seconde fois et on fait shin-shin. C'est ça.
C'est tout à fait ça.
C'est voilà. Ça.
C'est la deuxième tentative.
Enfin, c'est tout à fait ça pour nous deux, peut-être, Lucas, mais peut-être pas pour Véronique.
Vous n'avez pas
Brindeau,
encore répondu à la demande.
Alors, pour le frisson, oui, mais c'est une atmosphère plus paisible.
Ah.
Mmh. On n'est pas dans cette violence, quoi.
Ah non. On est plus dans un caractère plus étal que d'un instant. Il vaut mieux d'ailleurs que ce soit seulement un instant, si j'ai bien compris ce que disait Lucas Fournier.
C'est clair, oui. Qu'est-ce que vous pensez de Shin-Shin, Jacques Abertrand? Vous n'avez pas travaillé dessus, mais...
À propos de double service, je ne trouve ça pas très net.
Bon, glissons.
Slice-on plutôt.
Slice-on.
Odile Conseil, vous auriez des traces de Shin-Shin?
Mais comment?
Dans la littérature, la poésie?
C'est une forme de littérature, c'est dans un épisode inédit du Petit Nicolas.
Ah oui?
Dont Goscinny.
Oui.
Alors, papa et maman et mémé ont levé leur verre pour trinquer, mais pas moi, parce que je n'avais pas eu le droit d'avoir du champagne. Et papa a dit à maman, tu te rends compte, 10 ans déjà. Et maman a dit en souriant, oui, 10 ans déjà, comme ça passe vite. Et papa a continué, tu te rappelles notre Shin-Shin? Et maman a un peu rougi en disant que oui, elle s'en souvenait comme si c'était hier. Et je demandais ce que c'était un Shin-Shin. Papa m'a expliqué et j'ai dit que moi aussi j'allais faire Shin-Shin avec Marie-Edwige et que ce cafard daignant qui est toujours premier ne saurait même pas ce que c'est, que ce serait bien fait pour lui et que même Geoffroy, dont le père gagne des tas et des tas d'argent, trouverait ça épatant. Alors, papa m'a dit que j'étais trop jeune pour ça et maman m'a dit d'aller ranger ma chambre. Et j'ai répondu que si j'étais trop petit pour le Shin-Shin, j'étais trop petit aussi pour ranger ma chambre. Et alors papa a pris sa voix sévère et m'a prié de ne pas répondre et il m'a privé de dessert pour la peine. Heureusement, mémé a dit que aller, ce n'était pas bien grave et que je pouvais bien avoir un peu de baba parce que quand même, c'est elle qui l'avait fait et qu'elle s'était donné du mal. Alors j'ai dit merci, merci à ma mémé.
C'est mignon, ah oui, oui, oui. Mais donc on voit que l'évocation du Shin-Shin peut avoir une conséquence un peu, non pas dramatique, mais un peu embêtante pour quelqu'un d'autre finalement. En l'occurrence, chez Nicolas.
Oui, mais chez les parents, l'évocation du Shin-Shin a fait les replonges 10 ans en arrière. Et les,
oui,
les
quand il s'aimait encore,
c'est ça. Oui.
C'est joli, non?
Oh, c'est très
Véronique.
Charmant. Oui.
Vous connaissiez, vous aviez lu la traduction japonaise peut-être?
Moi, je n'ai pas eu la même version du petit Nicolas.
Ah non.
Donc je ne me souvenais pas de ce passage, mais je regrette fort. En tout cas, Shin-Shin, quand on en a fait l'expérience, c'est en effet inoubliable.
Ah bon? Hein? Ça donne envie d'essayer. Lucas Fournier, donc, avec vous, on est plutôt dans la violence, enfin, une certaine forme de violence.
Comme avec vous, on était dans le mariage, je vous propose d'y rester.
C'est vrai.
Et pour vous faire plaisir avec un extrait de Françoise Sagan dans « Bonjour grossesse ». Vous voyez, donc apparemment, ça s'est bien terminé. Brigitte ne supportait plus les mensonges de Marc, ce semi-séducteur. En descendant à la plage avec son beau-père, elle était pourtant prête à lui laisser une dernière chance. Elle marcha les pieds dans l'eau. La vie, c'est comme les vagues, une mauvaise, une bonne. Elle aperçut au fond de la mer un ravissant coquillage, une pierre rose et bleue. Elle plongea pour la prendre, la garda toute douce et usée dans la main jusqu'au déjeuner. Elle décida que ce serait un porte-bonheur, qu'elle ne la quitterait pas de l'été. Marc revint pour le déjeuner. Il lui apporta un whisky avec des glaçons. Il lui dit « Chin-chin ». Elle alluma une cigarette et répondit d'une voix calme. « C'est exactement de cela qu'il s'agit, Marc. Vous faites de l'amour une idée un peu simpliste. » Ce n'est pas une suite de sensations indépendantes les unes des autres. Il y a la tendresse constante, la douceur, le manque, des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Shin-shin quand même.
Ah, c'est bien. Hein. Ils en ont de la chance d'être dans cette histoire, tous les deux, je le trouve. Non, parce qu'il y a de l'amour, il y a... Voilà, c'est pas toujours facile en même temps.
Et il y a du whisky.
Ah oui, j'aime pas ça, moi. On progresse un petit peu grâce à cette citation, Véronique.
Pour ce qui est de la constance et pour ce qui est d'une sorte de douceur, on se rapproche vraiment de l'ambiance que diffuse ce mot en japonais, shin-shin.
Ah oui, oui. Odile, une autre trace toujours dans la littérature pour les enfants ou pas?
Non, beaucoup moins pour les enfants puisque c'est de Céline. Et pas Céline Dion, mais Louis Ferdinand.
Oh, oh là.
Ça commençait comme ça, par 2-3 vacheries qu'il lui lançait par-dessus la table. Elle les prenait en pleine poire. « Me pousse pas, Auguste, me pousse pas devant le petit ou un de ces quatre, je vais finir par te saigner. » Mais lui était parti, il braillait, il faisait le diable. « Ah nom de Dieu, de mille bons dieux, elle sait que me foutre en rogne, merde alors. Elle rêve de soi et de chin-chin, mais regarde un peu dans quoi on vit. Et ton fils avec sa merde au cul, ce gredin, ce petit salaud, charognard, petite frappe, je vous en foutrai du chin-chin. »
Oui, oui, on le reconnaît, hein.
Ah oui. C'est un voyage au bout du chin-chin, hein.
Autre chose, Lucas Fournier.
Oui, alors là, on est plus proche du sens initial que j'avais évoqué, mais il y a toujours de l'amour.
Oui.
Alors c'est un extrait de Jules Verne, Le retour de Michel Strogoff.
Oui.
Le désastre était imminent, le capitaine Michel Strogoff ne pouvait le prévenir qu'en mettant en déroute la horde sauvage des Tatars menée par le traître
Yvan Garef.
Oh, bravo. Mais quelles effrayantes images s'offraient à lui. D'un côté, l'ours dressé, menaçant, et dont chaque patte semblait dotée de lames d'acier affûté, et de l'autre, le radeau emportant dans un courant tumultueux la frêle Nadia et les deux journalistes Harry Blount et Alcide Jolivet. Combien de temps allait-il tenir? L'ours s'approcha. Strogoff saisit une hache. Il fallait qu'il fût fou pour oser défier un tel adversaire. Il pouvait à présent respirer l'odeur de fauve avide de sang. D'un coup de patte, l'animal envoya l'arme se fracasser contre un rocher. Strogoff n'avait plus que son couteau. « Gloire au tsar et chin-chin !» hurla Michel en se jetant sur le ventre de l'animal comme un tigre enragé. Au loin déjà, Nadia criait « Ciao, ciao !» et il ne l'entendit pas.
Quel dommage. Vous avez lu ça, Hervé Le Tellier, vous êtes très Jules Verne quand même, comme garçon.
Oui, je suis très Jules Verne,
oui.
C'est un passage que j'avais un peu oublié,
oui.
Mais on sent quand même le souffle
vernien,
très puissant. Il fait froid, il y a des rapides,
et il y a une belle femme.
Et puis il y a Yvan Ogareff.
Et c'est Tatar.
Véronique Brindeau, à ce point du jeu des impressifs, il faut que vous nous éclairiez.
Oui, alors l'ours, avec l'ours, j'ai repris un peu espoir. Parce
vous avez repris du poil de la bête,
oui.
Avec l'ours, oui, c'est ça.
Que l'ours, on le voit mieux dans un paysage peut-être neigeux, éventuellement.
Oui. Oui.
Et précisément, chin-chin, c'est le bruit de la neige.
Mais sous les pas.
Au Japon, on ressent que la neige tombe en faisant chin-chin. C'est le propre de cet impressif. Et donc on dit « Shin Shinto Furuyuki », la neige tombe en silence.
Ah,
mais
c'est le
bruit silencieux.
C'est comme dans les chansons anglaises bien connues. C'est le son du silence, c'est le calme. « Shin Shinto Shita » quelque chose, c'est quelque chose qui est très silencieux. Donc cette impression de calme et de neige, elle peut aussi se propager à la nuit. Donc la nuit profonde peut aussi susciter cette expression « Shin Shin » même s'il ne neige pas. C'est pourquoi le caractère intime des évocations d'Odile Conseil pouvait convenir à cette ambiance de chin-chin.
Oui,
c'est Arthur Rimbaud, les froufroutantes étoiles.
Alors, les froufroutantes étoiles, comment est-ce qu'on dirait ça en japonais?
Oui,
bonne question, Véronique.
Une expression paradoxale, mais qui laisse effectivement de beaux souvenirs quand on l'expérimente. Alors, on trouve bien entendu cette expression pour des scènes nocturnes ou pour des scènes de neige dans la littérature. Et je l'ai trouvé en particulier dans un roman très célèbre au Japon qui est « Je suis un chat » donc de Natsume Soseki, qu'il écrit en 1905. Et dans « Je suis un chat », Natsume Soseki fait parler un chat. Et ce chat un petit peu moqueur, qui habite chez un professeur, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à l'écrivain lui-même, commente tout ce qui se passe et quel est l'avis de ce professeur, qui apparemment ne fait pas qu'étudier, mais aussi partage avec le chat le goût de la sieste. Donc ce professeur reçoit des amis, il y a des conversations, et le chat commente tout cela. « Ikani, wagawai no shujin ga, nijuroku chu seisai naru byousha ni atai suru » Kiko usuru nimo kakawarazu, chikuichi kore o dokusha ni hōchi suru no nōryoku konki no nai no wa hana hada ikan de aru. Je regrette de ne posséder ni les capacités ni la persévérance nécessaire pour présenter au lecteur toutes les excentricités et bizarreries que mon maître fait en une journée et qui mériteraient une expression détaillée. Ikan de wa aru ka iyamu o e nai. Kyō wa neko toiedomo hitsuyō de aru. Je le regrette, mais qu'y faire? Un chat doit aussi se reposer. Suzuki-kun to Mei-kun no kaeta ato wa Kogarashi no wa tato fuki yande shin-shin to furuyiki no yo no kotoku shizuka ni natta. Après le départ de Suzuki et de Meitei, tout redevint calme, comme par une nuit où la neige tombe doucement quand les derniers vents de l'automne ont cessé de souffler.
Ben oui, oh, c'est joli, moi j'en entendrai des heures du japonais comme ça.
Ah oui, oui.
Ah oui, je trouve ça très très beau. Vous savez qu'Hervé Le Tellier à une époque avait une amie japonaise, je crois que c'est pour qu'il est resté aussi longtemps avec elle, parce qu'il se laissait bercer par cette langue mélodieuse.
On parlait anglais merveilleusement.
Est-ce qu'on donnerait le mot de la fin à Jeanne Carillon parce qu'elle apprend à chanter en japonais? Il faut lui donner l'occasion de s'exprimer.
Ah, d'accord, Véronique. Très bonne idée.
Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer, Jeanne?
Écoutez, je vous proposerais bien Momiji. Oh.
Momiji.
Momiji, voilà, Momiji, qu'est-ce que c'est?
Oui, ce serait bien de nous le dire.
Ça signifie couleur d'automne. C'est ça?
Alors, les momiji, ce sont, dans la langue ancienne, c'est tout ce qui change de couleur, tous les arbres qui changent de couleur, mais maintenant c'est souvent synonyme d'érable, puisque leur couleur rouge est vraiment célèbre en automne, en particulier au Japon.
Aki no yuhi ni teruyama momiji koi mo uzui mo kazu aru naka ni Matsu wo irodoru kaede ya tsuta yama no fumoto no suzo mo yo tani no nagare ni chiri uku momiji nami ni yurarete Anarete yotte akayakiro no iro samazama ni mizu no ue ni mo oru ni shiki.
Quittons le Japon et Shin-Shin et jouons maintenant avec des mots français, mais différemment. Nouvelle séance de notre petit rimailleur illustré Papou pour un dictionnaire en vers où toutes les définitions se présentent sous forme de poèmes à dire ou à chanter. C'est selon le bon plaisir des rédacteurs. Des rédacteurs libres aussi de privilégier certaines exceptions des mots qui leur sont confiés. C'est pourquoi un contrôleur veille au grain, les yeux rivés sur un bon vieux dictionnaire classique. Patrice Minet, c'est à vous de poéter. Je vous ai offert un mot qui a ses lettres classiques, mais qui est aussi très moderne.
C'est vrai. Hein? Il est classique et moderne.
Exactement, à la fois. C'est pas donné à tout le monde, ni à toute chose.
Vous parlez de moi?
Et vous allez être contrôlé par Jacques Vallée, c'est un honneur.
Ah oui, chouette.
C'est vrai, il est parfois sévère, mais enfin bon. Vous tournez les pages, Jacques, un petit peu rapidement, vous savez que le thé, c'est vers la fin.
Tournez les pages.
Sans les abîmer.
Oui, voilà.
Page... Vous êtes déjà à la tablette, mais que vous êtes rapide.
Voilà, plage 24. 94.
C'est long, c'est court.
Ah ben c'est un beau morceau, hein. C'est un quart de colonne,
c'est
ou
quand
une
même
demi-colonne.
Une
même.
Belle tablette, avant, Patrice Minet. Alors comment avez-vous abordé la tablette, Patrice Minet? Sous quelle forme rimée, rimailleuse?
Alors j'ai mis des rimes, c'est vrai.
Oui.
Et puis après j'ai fait des vers un peu libres.
Pour les chanter?
Pour casser un petit peu le côté...
Le côté trop régulier, trop parfait.
Voilà, je voulais introduire quand même une part de risque d'humanité, si vous voulez.
Voilà, un peu de folie. Bah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous avez à rire, Serge?
Cette Arrêtez. Volonté de casser sa perfection, c'est d'une immodestie.
Et vous abordez la tablette par quel mot? Alors, par la modernité ou par le classicisme?
Alors, je vais commencer par l'ancien, ouais, l'antique même.
Ouais, ouais.
Depuis que j'ai ma tablette, c'est pas rigolo, entre nous, je ne sais pas quoi en faire. Et je me fais un mauvais sang fou. Chaque fois que je veux l'utiliser, je ne peux pas la contrôler.
On dirait que c'est l'air... j'ai la rate qui se dilate, non?
Ce sont déjà des vers libres ou je me trompe?
Certains sont libres,
oui,
et d'autres, déjà, je vais les libérer.
Oui. Ah, mais il a dit qu'il cassait sa perfection. Donc, dès le départ, le vers est libre.
Du vers cassé. C'est des morceaux de vers.
C'est des vers aux mille morceaux, voilà.
Et ça démarre très bien, je trouve.
J'ai un style cacassé, ma planchette à glissière et la cire à fondu pour graver, c'est foutu. Mes tablettes en feuillet ont perdu leur papier, le fermoir est tordu et mes notes sont perdues. Dans les pages de l'ouvrage, on présente les matières, ça devrait être plus clair, manque de peau, moi je m'y perds. Ma belle plaque est en marbre, je la cogne, je la casse, je me mets très des claques.
Mais l'air, il doit changer à un moment donné, quand, normalement.
Oui, non, mais il est juste sur le refrain.
Ah, d'accord, il est très impatient.
Oui, calmez-vous, enfin. J'ai posé l'étagère, disposé tous mes livres, ma réserve de plumes, ma collection d'enclumes, tout à fini par terre. En faisant mon discours, j'ai rangé mes papiers sur la tablette d'acajou où je me suis appuyé avant de dégringoler. Perché sur mon balcon, en appui sur la dalle, j'imite le pigeon et j'ai juste l'air d'un con.
Pardon ?
Pour me remettre un peu, j'ai sucé mes médics, ça a été très vite, maintenant j'ai plein de tics. Comme je mâche du chewing-gum, on ne voit rien, ou tout comme. Ah mon Dieu que c'est embêtant, ma tablette est pas traque, et quand elle n'est pas d'attaque, je me retrouve chocolat.
Tout ça pour en arriver là.
Pas tout ça.
Il nous avait prévenu, hein. Il a un peu cassé.
Je ne sais pas du coup si Jacques Vallée a réussi à saisir la définition du dictionnaire de référence.
Oui, oui, mais c'est tout.
Il n'y a rien d'autre.
Vous n'avez rien d'autre?
Oula. Quand un contrôleur dit ça.
Tu es à la bonne page du dictionnaire?
Oui. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a la planchette, la petite surface où on range les choses. Il y a naturellement les produits alimentaires, c'est la tablette de chocolat, mais c'est pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de tablettes.
Hein. Oui, il y a aussi les abdominaux qui sont appelés tablettes de chocolat. Oui. Vous avez traité ça?
Non, parce que je n'en ai pas.
Et puis les médicaments, les tablettes de médicaments. Mais alors surtout, il y a tout un chapitre nouveau, puisque c'est un dictionnaire récent.
Oui.
Les tablettes graphiques périphériques d'ordinateur associant un plateau à un stylet et qui, à l'aide d'un logiciel, permet de dessiner, de retrouver des photos, etc.
Ça commençait dessus.
Ça commençait par là.
J'ai un style qui a cassé ma planchette glissière.
Ah, mais j'ai pas compris.
Non, mais parce que vous n'êtes pas assez moderne.
Ça
va trop vite.
Télécharger un livre sur sa plaquette, vous l'avez...
C'est plutôt une tablette qu'une plaquette. Allez. Non, mais vous n'êtes pas obligé de nous lire tout le dictionnaire.
Vous assurez,
n'est
pas à la bonne page.
On peut faire un alcotest.
Il y a vraiment des coquilles dans le dictionnaire.
Ah bon, mais écoutez, c'est parfait.
Circuler.
On aimerait bien quand même une petite citation.
Ah, oui.
Est-ce qu'un grand auteur s'est intéressé à la tablette?
Enfin, un auteur, je ne sais pas ce qu'est sa taille. Il s'appelle Gaine.
Gaine?
Oui.
Il a un prénom.
C'est une petite taille ou une grande taille?
F.Gaine. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il était torse nu, avec des tablettes de chocolat de dessin animé.
Ah, les abdominaux, des muscles. Ça doit être un...
C'est une femme.
C'est une femme qui a une salle de gym.
J'ai écrit des livres.
Bon, très bien. Voir ce nom, lire ses livres. Est-ce qu'on prend la tablette de Minet?
Oh, bien sûr, dans le
Ça dépend pour quoi faire.
Comment, oui. On va passer à Jacques Vallée. Jacques Vallée glisse le dictionnaire vers sa voisine, Violaine Schwartz. Mm-hmm. Vous allez contrôler Jacques Vallée, Violaine. Okay. Quel honneur. Sur le mot bibine, Violaine.
Oui.
Tournez les pages, c'est tabé, vous allez le trouver très vite.
Mais elle ne va pas avoir beaucoup de mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de définitions.
Voilà. Hein, non, je le savais en vous donnant ce mot. J'ai regardé le dictionnaire avant vous. Voilà. Mais j'ai pensé que vous étiez l'homme de la situation par rapport à ce mot bibine. que c'était un mot que vous deviez connaître bien et connaître aussi son opposé, évidemment. C'est un mot qui vous a inspiré, Jacques Vallier?
Ben oui, j'ai fait un poème.
C'est bien, c'était le jeu. Très bon respect de la règle.
J'ai fait une, comme il n'y a pas beaucoup de définitions, j'ai fait une espèce de variation autour d'une seule rime.
Oui, voilà. In, peut-être en in. Oui. Ah, ben, in. Comme c'est malin. C'est...
Bonne idée.
Je ne m'y attendais pas du tout. Et ce sont des quoi? Des décas, des octos?
Des octos avec un vers réduit à la fin. C'est-à-dire oui. De 5 pieds.
Ah oui, très bien, on vous écoute.
Ce mot, quelle est son origine? Selon Robert, sa racine, bibita, serait transalpine. C'est une boisson qu'on débine, c'est de la bibine. Quand dans les bars, on s'agglutine, il y a des clients qui turbinent en s'accrochant à la chopine. Moi, c'est la bière qui me fascine. Oui, c'est la bibine. Le bébé suce sa tétine. Un bibi orne ma voisine. La mode, le bobo fascine. Ce qui me rend baba devine. Moi, c'est la bibine. Quand avec mamie je festine, elle me sert des galantines qu'elle accompagne de tartines. Et ce qu'on boit avec sa cuisine, c'est de la bibine. Mais si après on se lutine, on peut dire elle m'embobine. Elle se montre très câline et à ce jeu, elle s'obstine. C'est pas de la bibine.
Ah, c'est du lourd.
Vous parlez toujours de... Alors j'ai cherché dans beaucoup de dictionnaires pour voir s'il y avait d'autres acceptions à ce mot.
Et oui.
Et j'ai trouvé une citation, la seule citation de Jean-Bernard Puy.
Ah bon? Ah oui.
Dans le dictionnaire du français argotique et populaire avec François Carradet. Ouais. Et sa citation, c'est « Son petit rosé, c'est de la bibine
». Merci JB. Alors, je ne sais pas si Violaine Schwartz a quelque chose à ajouter. Ce poème était charmant, on y comprenait beaucoup de la vie privée de son auteur.
C'était la vie, une autobiographie, en fait, de Jacques Vallée.
Oui, oui, ce qui est toujours surtout très intéressant.
Surtout quand il lutine sa grand-mère, si j'ai bien compris.
Vous avez quelque chose à ajouter, Violaine?
Ben non, parce qu'en fait, dans le dictionnaire, il y a une seule ligne.
Il n'y a pas de citation.
Ben non, il n'y a rien. Il y a marqué « Allez voir pipi de chat ». Donc, je ferais que j'aille voir un pipi de chat.
C'est... Sans blague.
Ouais, non. Bière de mauvaise, de qualité inférieure et mauvaise boisson, voilà.
Vous voyez qu'on a raison de faire ce que Thierry Maillard dit. Ça correspond à un vrai besoin.
Ah oui. Oui.
Oh, tico-tico-ti, oh, tico-tico-ta, tico-tico-fif-a-coucou, ma claque. When he says cuckoo, he means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in my block. I got a heavy day, that's it, that's it, that ain't so tico tico. Is it really getting late? If I'm on time, woohoo, but if I'm late, woohoo, this is the one I have, so mean I want to wait. For just a birdie and a birdie who goes nowhere. He knows of every lover's name and how to go there. For an affair of the heart, and tico's terribly smart. He does me gently, sentimentally, up a song. Oh, I hear my little tico tico calling. Because the time is right and she's a murder falling. I love the cuckoo 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 in the clock. Tico 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 in my clock.
Jeunesse. Vous écoutez Des Papous, c'est dans la tête, c'est sur France Culture. Au micro, Françoise Trossard et la bande des Papous du jour à suivre jusqu'à 13h59. Un exercice d'admiration, l'inventaire des premières fois avec Lucas Fournier, Odile Conseil, Dominique Muller, Eval Massy, Jean-Bernard Puy et une page de Publi Papoucité, un demi ou rien. Dis-moi qui tu admires, avec gourmandise, avec malice, générosité, à chacun ses élans du cœur. déjà révélé au Papou les exercices d'admiration de Dominique Muller pour Patrick Modiano, pour Pierre Larousse, celui d'Eva Almassi pour Hitchcock. Aujourd'hui, c'est Patrick Beignet qui explique qui il admire et sous quelle forme. Patrick.
Quand je vous aurais dit qui j'admire, ce n'est pas une admiration exclusive. Hein.
Non, bien sûr.
Mais en l'occurrence, il s'agit de Charles Perrault. Et
ah
vous
bon
allez tout de suite comprendre le genre que j'ai.
Vous avez fait un conte, non ?
Voilà.
Ah, vous admirez Perrault, vous ?
Oui, je sens bien que c'est une faute de goût.
C'est bizarre.
On ne m'entendra plus beaucoup ici, j'ai l'impression.
On va régler nos comptes.
Allez, on vous écoute.
Il était une fois un homme du nom de Pierre Perrault, et il avait épousé une jeune femme nommée Paquette. Pierre et Paquette eurent 6 enfants, tous des garçons. Le petit dernier avait reçu le prénom de Charles. Il était le petit dernier, disions-nous, mais pas de beaucoup, car il avait un frère jumeau, prénommé François, qu'il tenta, raconte-t-il, mais en vain, de doubler au moment de la naissance. François n'eut pas de chance et mourut quelques semaines plus tard. Les 5 frères survivants, si j'ose dire, firent bientôt monde de tempéraments remarquables, et dans le quartier, tout le monde sut bientôt que Pierre deviendrait avocat ou Claude architecte. Mais Charles, le petit dernier, qu'allait-il devenir ? Ses parents s'interrogeaient beaucoup à ce sujet. C'était pas que Charles fût dépourvu de qualités propres à le faire réussir dans l'existence, mais parce qu'au contraire, il avait trop de dons et aurait pu faire tous les métiers ou remplir toutes les fonctions. Ses parents craignaient par-dessus tout qu'il ne devienne un touche-à-tout, car au jour du baptême du petit Charles, une méchante fée nommée Bric-à-Brac était apparue en fureur, car on avait oublié de l'inviter. Elle avait alors lancé sa malédiction en prédisant « Jamais cet enfant ne sera un spécialiste ». Devenu grand, Charles Perrault fit des tas de choses. Il fut premier commis des bâtiments du roi Louis XIV, il collabora avec son frère Claude à la colonnade du Louvre. Il devint l'un des plus ardents partisans des modernes, dans la fameuse querelle des anciens et des modernes. Il fut bibliothécaire de l'Académie, il publia des tas de poèmes, des épîtres, des discours, des essais en tout genre, une vie de saint Paulin, évêque de Nôles, et un poème au roi sur la prise de Mons. Il fit tout ce qu'on peut imaginer, il écrivit dans tous les genres possibles. La seule chose qu'il n'écrivait pas, c'était des contes. En 1678, après 2 autres garçons prénommés Charles pour l'un et Charles Samuel pour le deuxième, un 3e fils naquit au foyer de Pierre et Marie. J'ai passé l'épisode du mariage, mais vous
pouvez en dénier. Ah oui, non, on avait rétabli le lien, oui.
Par exception, ce nouvel enfant ne reçut pas le prénom de Charles, alors que tous les autres s'appelaient Charles. Ouais. Et quand il ne s'appelle pas Charles, il s'appelle Pierre. Donc, par exception, ce premier fils de Charles Perrault ne reçut le prénom de Charles, mais celui de Pierre, comme son père, son grand-père, son arrière-grand-père, et plusieurs de ses cousins. Pourquoi est-ce que je vous apprends la naissance de Pierre
le
21 mars
oui.
1678, quand je ne vous ai pas parlé en détail, ni de celle de Charles Samuel, ni de celle de Charles tout court? Vous le saurez bientôt. En attendant, en 1690, Charles Perrault, le père et pas un des autres, eut un rêve. Une nuit, comme il sommeillait aux côtés de Marie, son épouse, la fée Bric-à-Brac lui apparut en sa 63e année. À lui, mais pas à elle. C'est un peu ambigu. Comment, lui dit-elle, comment, j'apprends que tu n'as pas encore publié de conte. Crois-tu par hasard qu'on se souviendra de toi, Charles Perrault, pour ton épître chrétienne sur la pénitence de 1683? Je sais bien que Bossu en a dit beaucoup de bien, mais à mon avis, ça ne suffira pas. Ou bien croirais-tu par hasard plutôt, continua la fée Bric-à-Brac, décidément très remontée, croirais-tu plutôt qu'on se souvienne de toi pour tes poèmes à la louange de Monsieur Lebrun de 1681? Dans ce cas-là, tu te mets le doigt dans l'œil, Charles Perrault. Allons, il est temps que tu écrives des contes. La fée disparut et Charles Perrault s'éveilla, décidé à écrire ses contes, ce qu'il fit dans les années suivantes. Mais, à vrai dire, le fit-il vraiment? Nous en arrivons à sa plus belle invention. En 1695, les contes sont publié, c'est beaucoup dire, parce que c'est à un seul exemplaire calligraphié, mais c'est comme une forme de publication.
Ouais.
Les contes sont donc publiés, précédés d'une épître signée P.P. P.P. qui est-ce ? Pierre Perrault, bien sûr. Le fils dont je vous ai annoncé la naissance,
oui, oui.
Avec quelques solennités.
Oui.
C'est donc pas Charles, non, c'est Pierre Perrault qui signe la première édition des Contes. J'en ai le souffle coupé, comme vous voyez. Pierre Perrault se donne donc, dans la dédicace, pour l'auteur de ces Contes. Il dit « On ne trouvera pas étrange qu'un enfant ait pris plaisir à composer les Contes de ce recueil. » Des Contes qu'il a reçus, dit-il, de sa nourrice. Vous attendiez pas à ça, j'imagine.
On a pu dire que
c'était le plus beau conte de Perrault, de Charles Perrault, d'avoir inventé, parce que c'est évidemment lui qui a voulu que son fils, âgé de 15-16 ans à l'époque, passe pour l'auteur, mais sans aucune conviction. Les conséquences littéraires qu'on pourrait tirer de tout ça sont immenses, mais je vais vous les épargner aujourd'hui.
Ah, c'est dommage.
Mais c'est très dommage, mais j'y reviendrai si vous voulez. Et je suppose que ce jour-là, la fée Bric-à-Brac était fière de Charles Perrault.
Ben certainement. Quel est votre conte de Perrault préféré, Patrick Beignet?
Je suis sûr que c'est Barbe Bleue.
C'est Barbe Bleue, effectivement.
C'est vrai.
Je le savais à l'avance.
Ah, c'est le vôtre aussi, Jean-Bernard?
Jean-Bernard n'aime pas Perrault.
Aucun, j'aime pas Perrault, je trouve ça très très mal écrit. C'est un peu normal que ce soit un garçon de 15 ans qui l'ait fait.
Ah, peut-être que c'est vraiment pire.
Ces livres sont très mal écrits, ils n'en sont pas moins bons. Je veux dire, c'est pas un critère.
Oui,
le
mais
style,
quand j'ai relu les contes de Perrault, j'étais gêné par l'écriture.
Je ne les ai jamais lus. Et je pense, je le déclare parce que je pense ne pas être la seule. On a tous entendu des contes de Perrault racontés par les uns et les autres, mais... Est-ce que Jean-Bernard Pouy, Patrick Beignet, vous voulez vous retrouver sur le pré demain matin pour un duel?
On parle pré ou on va au bar?
Au bar.
Le petit chaperon rouge trottinait dans les grands bois quand soudain une ombre bouge. C'était un loup, un gros loup à l'œil sournois qui se dit en voyant la gamine: j'ai besoin de vitamines, je vais faire un bon petit repas froid. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine tira. Mais le petit chaperon pas bête se rappelle en gaffard de l'histoire, prit une grosse clé à molette et lui serra soigneusement la mâchoire. Puis doucement, au loup barrant de colère, je t'ai laissé bouffer grand-mère, mais faudrait tout de même pas prendre pour une poire. Le petit pot et la galette, c'est chaperon qui les mangera. Il faut toujours, ma grosse bête, se méfier d'un plus petit que soi. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine tira. Tire, tire, tire la chevillette, tire et la bobine tira. Et voilà.
Voilà, oui. Lucie Fouquet, rappelons-nous le début du roman d'Aragon, Aurélien. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Suivra une histoire d'amour formidable. Les premières fois ne sont pas toujours, mais pourquoi pas, des souvenirs magiques. C'est le sujet de notre inventaire du jour avec Jean-Bernard Pouy, Eva Almassi, Odile Conseil, Lucas Fournier et Dominique Muller. Et vous, bien sûr, vous nous racontez vos premières fois, rubrique commentaire des papous du jour. D'accord? Les premières fois, ça se partage. Dominique Muller, une première fois.
La première fois où j'ai vu un bébé de près, c'était le mien. On rentrait de la clinique et j'ai eu l'impression de me retrouver face à un fauve dans une jungle hostile dont il me fallait arrêter les cris menaçants. Quelques décennies plus tard, ça n'a pas tellement changé.
Eva Almassi.
La toute première fois que je suis venue à Paris, j'avais 15 ans, j'étais en tournée de danse folklorique et les Français me paraissaient si libres et paraissaient colorés à un enchantement. Depuis, je les vois souvent coincés, froids, réservés.
Oui, la vérité doit se trouver au milieu, je suppose, non?
Je me souviens de la première fois où, passant par Grindelwald, dans l'Oberland bernois, je me suis trouvé face à la face nord de l'Eiger. Alors on pouvait, en plus, avec une petite pièce de monnaie, utiliser une longue vue pour voir la sinistre muraille glacée, même en été. Et cette année-là, on pouvait tomber sur un alpiniste mort et pendu depuis l'hiver, à moitié pente, un japonais, si je me souviens bien, ce qui décuplait encore l'horreur de la façade glacée.
C'est intéressant. Depuis
l'an dernier, je me suis renseigné.
Dominique.
Alors, presque dans le même coin, la première fois où j'ai gagné ma vie, j'étais serveuse en Suisse, à Graubünden, dans les Grisons, pour apprendre l'allemand. Dans l'Engadine, les gens parlaient le romanche. Et plus précisément le putter, une sous-langue rhéto-romane qui tient du ladin et du frioulan. Selon la coutume locale, j'ai appris à tiédir les bières sur la machine à café. Biera tevi en puter. Le reste, je n'ai jamais su.
Ça a duré longtemps.
Je suis restée un trimestre.
Ah, quand même, oui. Quand même, Lucas Fournier.
Exotisme encore. Oui. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 9 ans. C'était sur Air Inter. Il y a eu la grève, l'avion n'a pas décollé.
J'ai une première fois que j'ai pris l'avion aussi. Alors, j'étais enfant et c'était un avion de tourisme piloté par un ami de mon père. Il disait, regarde là, là en bas au coin, là oui, à côté du canal, c'est ta maison, là tu la vois ? Je ne voyais rien que des petits carrés que je ne reconnaissais pas, mais j'ai dit, oui, oui, je la vois.
Eh bien, la première fois où je suis montée dans un hélicoptère, c'était à bord du Super Puma présidentiel de Villacoublay au Bourget, parce que donc je traduisais, et en nous posant un peu bizarrement, en nous reprenant trois fois, j'ai appris que c'était un pilote hongrois à qui on a cédé
les manettes,
je sais pas quand,
les commandes.
Mais déjà, ça fait très peur, un hélicoptère qui s'arrête tout d'un coup en l'air comme un caillou, et ça ne tombe pas. Mais bon, atterrir trois fois en sautillant, c'est pas drôle non plus. Mais on m'a dit que c'était comme du vélo. Quand on s'est en fait, mais on sait piloter n'importe quel hélicoptère.
Ah oui, apparemment, c'était peut-être pas tout à fait le cas quand même.
Non.
Jean-Bernard Pouy, la première fois.
Ah, c'est deux premières fois en
un. Ouais, couplé.
La première fois que j'ai récupéré, capturé même, dans la cave de mon immeuble, un petit chat qui m'a griffé à mort, mais que j'ai ramené quand même dans mon appartement. Il s'est réfugié quelques jours sous le lit et sorti peu à peu, et je me souviendrai longtemps de la première fois où il a osé monter sur la couette. J'ai jamais vu sur le faciès d'un animal une telle impression de bonheur incrédule.
Ben oui, sortez d'un monde glauque quand même. Dominique ?
La première fois où j'ai perdu mes illusions, j'étais sur le pont de la Gallia à Strasbourg et j'ai vu sur la berge en contrebas Armand Angster, mon Armand Angster, enlacer cette idiote de Marie-Claude Valin. C'est aussi la dernière fois où j'ai été une oie blanche.
Parce qu'une fois perdues, les illusions, on ne les retrouve jamais. Hein.
La première fois qu'on m'a demandé en mariage, j'ai dit non, puis encore non, puis oui, et puis non, 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 et non.
Ah bon ?
Ça arrive souvent, Maria. Hein.
Oui, mais les dernières, non, 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 non. Ça, c'était le même homme qui me redemande régulièrement.
La toute première fois que je me rappelle, autant dire mon premier souvenir, date de l'école maternelle, grande section, où nous faisions de la peinture. À la cloche de la récré, Mademoiselle Guster a tellement admiré mes signes blancs sur les vagues bleues qu'elle m'a demandé de rester en classe pour les finir. Je me souviens que j'ai rajouté des becs noirs, inondé d'une telle fierté que j'ai ressenti cette ivresse pour la première et la dernière fois. Oh, j'ai explosé de fierté.
Ah oui, la très bonne élève, Dominique.
La première fois que c'est presque comme Dominique, à la campagne, dans la montagne. La première fois que j'ai réussi à attraper une truite à la main, j'ai éprouvé un frisson de bonheur primitif, comme celui du singe de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ah oui, je me souviens pas de la scène, moi.
Quoi ? Il brandit un morceau d'os, et il en fait une arme, et il devient un homme, enfin.
Ah là là, oui. Odile.
La première fois que j'ai lu Autant en emporte le vent, j'étais extrêmement fière de m'attaquer à un si gros livre. J'avais 12-13 ans, je pense. Je crois que c'était le plus gros livre de la bibliothèque de mes parents, exception faite des 10 volumes de l'encyclopédie Larousse et de la Bible de Jérusalem. Alors régulièrement, je refermais le livre pour voir où j'en étais, en regardant à quel endroit de la tranche était mon signé. En fait, j'ai vécu Autant en emporte le vent comme une sorte de course d'endurance.
À peu près dans la même semaine, j'ai découvert au cinéma deux êtres qui ont façonné ma vie. Elsa Martinelli, dans un film médiocre de l'amour de Jean Aurel, enfin, elle était sublime, et dans un chef-d'œuvre de Cooper et tout ça, l'immense et impérissable King Kong. Et depuis, c'est bizarre, mais toutes les plus belles actrices ont pour moi, immanquablement, une allure de grand primate.
Dominique Muller.
La première fois où j'ai mis les pieds à Paris, j'avais peur de tout, et d'abord de me perdre en sortant de la gare de l'Est. Épouvantée par le métro, j'ai pris un taxi pour l'école maternelle de la place des Vosges, où l'amie qui m'invitait était institutrice. En attendant qu'elle sorte, j'ai visité la maison de Victor Hugo, ma première heure de vie parisienne.
Odile.
La première fois que je suis allée à New York, j'avais l'impression d'être au cinéma. Il y a tellement de films de Woody Allen et Taxi Driver et Sex and the City qui mettent en scène New York qu'on a un absolu sentiment de familiarité quand on est là-bas. Je pense que si on va à Bishkek, capitale du Kyrgyzstan, on ne ressent pas exactement la même chose.
C'est sûrement plus exotique, oui, Jean-Bernard.
La première nuit que j'ai passée sur le Stromboli.
Dessus, oui. Ils sont tous tellement chics.
Bon, une nuit d'apocalypse glaciale, en plus, parce que c'est à 1000 mètres d'eau, où, recouvert de cendres tièdes, de gaz de chlore et de soufre toutes les 10 minutes, il est impossible de dormir. Mais il devient certain, là, enfin, que l'on est très très peu de choses.
Et donc on prend conscience de soi.
On prend conscience de soi.
Exactement.
Du haut de Stromboli.
Dominique.
Alors, beaucoup plus modestement, la première fois où j'ai reçu une fessée, j'avais 3 ans. Quand par miracle mon père était là, je quêtais son regard, mais ce jour-là rien n'y faisait. Il lisait dans son fauteuil, sa figure cachée derrière son journal. Je le lui ai arraché forcément. Et voilà, il m'a donné une fessée. J'ai eu la seconde 13 ans plus tard, après qu'il eut appris par un copain que je traînais dans la rue avec un garçon.
Un souvenir de fessée, Jean-Bernard.
Et la seule fois où mon père m'a filé une claque, en hurlant que j'étais aussi crétin qu'un jeune chien, ça m'a marqué. parce que je venais de faire sauter les plombs du compteur en essayant d'enfoncer une ampoule à vis sur une douille à baïonnette. Depuis, je me suis spécialisé dans l'électricité, donc ça va mieux.
Lucas.
La première fois que je suis venu au Papou dans la tête, il y avait Jacques Bince, Pierre Gripari et GB.
Et c'était bien, non?
Et c'était bien, oui. GB, pas JB, hein.
Oui,
j'ai désolé pour toi.
Charlie Hebdo, GB. Eva?
Quand j'ai entendu pour la toute première fois Moonlight Serenade, Glenn Miller, je croyais que je ne m'en lasserais jamais. Et je m'en suis lassée dès la deuxième fois.
Oh, bah, c'est trop bête, ça, alors, zut.
La première fois que je suis allée à la montagne, je ne connaissais pas Jean Ferrat. Mais depuis, chaque fois que j'y vais, je chante « Pourtant que la montagne est belle ».
La première fois que j'ai voté, j'avoue avoir accordé ma voix à Ferdinand Lope. Parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait les prolopes et les antilopes, évidemment. Le programme de Ferdinand Lope se résumant à la prolongation du boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer. Et ça, dans les deux sens.
C'était assez excitant. Oui. Ah oui. Oui. Il a eu combien de voix en dehors de la vôtre?
Une voix.
Quartier latin.
Eva Almassi.
Eh bien, d'une première fois à faire l'amour, j'ai fait mon premier roman. Du coup, pour la première fois, j'ai été éditée. Oui. Pour la première fois, on m'a invitée à la télévision, je ne sais plus vous. Et puis, pour la première fois, surtout, j'ai été traduite en hongrois, ma langue maternelle.
Et, oui, parce
et
que
ça,
vous
c'est quelque
en
chose
français.
De très, très curieux.
Odile?
J'aimerais beaucoup, mais beaucoup, pouvoir dire la première fois que j'ai relu La Recherche. Ce qui laisserait entendre que j'ai lu au moins une fois, voire deux, voire trois, et peut-être même que je la relis tous les ans. Mais ça n'est pas le cas.
Sans parler de Proust, la première fois où j'ai lu un livre dont le texte se passait des images. Ma vie d'enfant unique a changé. Le monde merveilleux de Mili Mali Malou, dans la Bibliothèque Rose, s'est déployé sous mes yeux et j'ai compris que je ne m'ennuierai plus jamais, même en lisant Proust.
Et oui, on n'est jamais seul avec un livre en plus. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, une pub. Oui, mais une pub Papou. Publie Papoucité en forme d'exercice d'admiration, c'est toute l'admiration de Patrice Caumont pour le cinéaste Jacques Demy. Avec Patrice pour célébrer Demy, Jeanne Carillon, Hervé Le Tellier et Eva Almassi. Jeanne.
Lola, il y a tant de films qu'on n'aime pas, il y a tant de dialogues qu'on n'entend pas. Oh, Lola, tu portes en toi tout Demy déjà. Nantes qui le hante et un marin qui s'en va.
Si vous croyez aux contes de fées, si vous aimez les demi-tons pastels et les couleurs tendres, Lastré, Paul et Virginie ou les chansons de Woolsey,
si vous pensez que les contes de Perrault sont des histoires vraies ou si dans vos rêves vous chantez à Broadway,
pourquoi résister à l'appel d'un vrai Demy?
Oui, Voir un bon demi, c'est retrouver toute sa fraîcheur.
Non, je ne pourrais jamais les voir deux fois. Je ne pourrais pas, et trois fois j'en mourrais. Peau d'année, Lola ou les Rochefort, nana. C'est comme Cherbourg, j'y retourne pas. Son ciné nous fait rêver toute une vie. Nos livres d'enfants, jamais on ne relit. Oui, tous ces émois, on les garde pour soi. Et leur refrain ne nous quitte pas.
Si vous avez soif de rêve, si les chansons d'amour vous donnent la pépite.
Si la première gorgée de bière vous met la pression.
Ou si le chagrin d'amour vous chope.
Exigez le vrai demi, avec sa fraîcheur incomparable, dont la buée romantique couvrira votre verre et ceux de vos lunettes.
S'il pleut sur Brest, sur Nantes ou à Cherbourg, et si vous pensez comme Brassens que les parapluies, c'est le paradis.
Rafraîchissez-vous la mémoire. Allez voir un demi.
Voir un bon demi, c'est formidable. Revoir un demi, c'est doux. Lola, c'est la noire et blanche beauté du diable. Et son joyeux commerce est équitable. Voir un bon demi, c'est fou.
Si votre songe d'une nuit d'été, c'est la fraîcheur d'un tapis de mousse.
Si votre bière bue, vous demandez au serveur du bar de Rochefort, sa sœur jumelle.
Offrez-vous donc un demi de neuve ou prenez un demi d'Anouk, si vous préférez la fière brune à la blonde.
Pour faire un bon panaché, ajoutez la limonade Varda.
Pour faire un perroquet, rajoutez plus de Nantes dans votre demi.
Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol ré do.
Avec Jaco et Michou, vous entendrez chanter des voix comme Jeanne à Don Rémi. Do ré mi fa sol la si do, bien sûr. Car de si, de la et même de do, demi c'est mimi.
Le grand demi grenadine, c'est pas la moitié de deux génies.
Demi, oui c'est Jacques, demi. L'homme au parapluie, demi d'ouverture d'opérette, demi de mélo, un vrai poète, qui ferait chanter même les petits biscuits nantais. Demi, oui c'est la de neuve qu'il met à l'épreuve, chanter et danser dans la rue, pour ses jolies prises de vue. Et même sous la pluie, avec ou sans Jean Kelly, il filmait toujours les marins, leurs pompons rouges chassent le chagrin, qu'embarque leur destin. Cherbourg, Nantes ou bien Rochefort, il ne change que le décor, mais ça chante dans tous les ports. Demi, comme Jean-Paul Gaultier aime les corsets et les corsaires en marinière ou en bustier les flibustières. La résie des bas, c'est comme la Coca-Lola. Demi, nous aquarelle la vie, tout se colorie en demi-ton, en demi-teinte. C'est aussi frais qu'une demi-pinte. C'est pas la moitié d'un génie, tout son ciné.
Des papous dans la tête. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard. À télécharger sur franceculture.fr en cliquant sur podcast pendant un an. Et puis, déposez vos questions, remarques, essais sur nos jeux papous, rubrique commentaires des papous du jour. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à 12h50. Et place dans quelques instants à Jean de Loisy pour les regardeurs. Passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture.
Quoi?